RFI, 5h à Paris, 4h temps universel. Et le journal tout de suite avec Martin Guez. Bonjour Martin.
Bonjour Paul-Lonçon Spinelli et à tout à l'heure et bon réveil si vous nous rejoignez à l'écoute de RFI. Nous sommes le lundi 17 février. À la une de l'actualité internationale ce matin, les Européens veulent se faire une place dans le dossier ukrainien. Relégué en deuxième rideau depuis l'appel direct entre Donald Trump et Vladimir Poutine, les dirigeants du vieux continent se réunissent de manière informelle à Paris. Le Premier ministre britannique Keir Starmer évoque l'envoi de troupes sur le sol ukrainien. En Syrie, les habitants vivent toujours sous sanctions, des sanctions économiques qui pénalisent encore le pays malgré la chute de Bachar al-Assad il y a 2 mois. Reportage à suivre à Damas. Nous serons à la frontière entre le RDC et le Rwanda, alors que le M23 est désormais bien présent à Bukavu, la capitale régionale du Sud Kivu, le groupe armé qui contrôle déjà Goma au nord depuis la fin du mois de janvier. Enfin, nous finirons au BAFTA, répétition générale avant les Oscars. Emilia Pérez déçoit Conclave et The Brutalist domine le palmarès. La contre-attaque européenne ce lundi dans le dossier ukrainien. Les dirigeants du vieux continent, mis sur la touche depuis le coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine, se réunissent aujourd'hui à Paris. Et le Premier ministre britannique Keir Starmer se dit prêt à envoyer des soldats en Ukraine si nécessaire pour garantir la sécurité ukrainienne. Déclaration faite à nos confrères du Daily Telegraph. Des Européens qui veulent faire plus et mieux, selon un conseiller du président français, Emmanuel Macron, avant cette réunion informelle de chefs d'État. Et pendant ce temps, sur le terrain militaire, les combats se poursuivent dans la ville de Pokrovsk, dans le Donbass. L'armée ukrainienne qui revendique un succès territorial après plusieurs contre-attaques et revendique la reprise d'une localité minière à 5 km au sud-ouest de la ville, même si la situation dans ce secteur reste très tendue et mouvante. Anastasia Bekou.
Un coup dur pour les Russes. C'est ainsi que le porte-parole du groupement qui se bat dans la région a revendiqué à la télévision la libération de Pichtchané. Selon Viktor Tregubov, les forces russes ont également été repoussées de plusieurs localités alentour. Des succès localisés qui auraient été favorisés par une utilisation efficace des drones d'attaque et une coopération entre les unités. Pour autant, l'officier reste prudent et souligne que la situation peut changer d'un jour à l'autre. Le journaliste spécialiste des questions militaires Yuri Boutousov écrit dans Censornet qu'il faut garder la tête froide, rappelant que ce village a été libéré 4 fois en 2 mois. La région autour de Pokrovsk est l'un des secteurs les plus chauds du front Est. Les forces russes tentent de prendre la ville minière en étau et de couper la route aux entrées Est et Ouest de la ville. Cette route est vitale pour l'approvisionnement des unités militaires ukrainiennes. La ville est aussi un point clé pour accéder aux ressources en charbon et en lithium convoitées par l'administration américaine. Les combats s'y font au prix de lourdes pertes. Le renseignement militaire estonien estime que le mois dernier, pour chaque kilomètre carré envahi, la Russie a perdu 100 soldats. Anastasia Bekio, Boris Vichit, Dnipro, RFI.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est lui arrivé aux Émirats Arabes Unis pour rétablir un vaste programme humanitaire. Alors que Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer dans la région, ça se fera très bientôt, assure le président américain. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, actuellement en tournée au Moyen-Orient, doit se rendre à ce sujet en Arabie Saoudite pour des pourparlers avec des négociateurs russes. Marco Rubio, qui était hier en Israël et qui s'est affiché aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le secrétaire d'État américain qui a souligné que le Hamas devait être éliminé quand Netanyahou a lui menacé d'ouvrir les portes de l'enfer à Gaza si tous les otages ne sont pas libérés. Le cabinet de sécurité israélien qui doit se réunir ce lundi pour discuter de la deuxième phase du cessez-le-feu avec le Hamas, censé déboucher sur une fin de la guerre, des négociateurs israéliens prennent eux le chemin du Caire pour des pourparlers. L'actualité au Proche-Orient ce matin, c'est aussi la Syrie confrontée depuis le début de la guerre civile en 2011 à de nombreuses sanctions économiques internationales qui ont complètement isolé le pays. En pleine refonte, depuis le changement de régime début décembre, la Syrie continue de vivre sous sanctions, ce qui affecte concrètement le quotidien des Syriens et leurs perspectives d'avenir. Reportage à Damas de Mohamed Erami.
Dans l'espoir d'un jour meilleur, Moaz Amoui, la quarantaine passée, ouvre son restaurant populaire dans le quartier de Mezzeh à Damas, la capitale syrienne, espérant pouvoir vendre ses plats et repas prêts à emporter et rentrer chez lui avec quelques provisions et de l'argent. Moaz explique que cela fait plus de 10 ans qu'il vit ainsi, en raison de sanctions économiques imposées à la Syrie qui ont transformé le pays en un état économiquement isolé du reste du monde.
Auparavant, nous étions capables de vendre et d'acheter car la Syrie connaissait un grand afflux de visiteurs étrangers, notamment en provenance des pays du Golfe arabe et des pays européens. Ils avaient de l'argent à dépenser, y compris en dollars.
La situation de Moaz est similaire à celle de millions de Syriens qui ont été frappés par des sanctions économiques en raison des violations des droits de l'homme par le régime précédent. Selon le professeur d'économie à l'université de Damas, Ali El-Sayed, les principales sanctions incluent l'interdiction commerciale, l'embargo pétrolier, l'interdiction des transactions financières et les restrictions de voyage.
Le peuple syrien ne doit pas être puni pour les erreurs du régime précédent. Il a le droit de voir des résultats positifs. Et la nouvelle administration doit faire preuve d'une grande transparence envers la communauté internationale.
L'économie syrienne a connu un déclin majeur en 2020 après que les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions sévères connues sous le nom de « loi César » qui comprenaient un gel des actifs et l'interdiction des échanges commerciaux avec les pays du monde entier. Damas, Mohamed Erami, RFI.
La Syrie, où le groupe État islamique est toujours actif, alors que s'ouvre ce lundi à Paris le procès de 5 djihadistes accusés d'avoir détenu des journalistes français en Syrie en 2013 au sein du groupe État islamique. Didier François, Edouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres ont passé près d'un an en captivité après des mois de supplice et de violence parmi leurs geôliers. Mehdi Nemmouch, le tueur du musée juif de Bruxelles, déjà condamné à la perpétuité pour cet attentat. Ce procès qui doit durer jusqu'au 21 mars prochain. RFI 5h06 ici à Paris et à Kinshasa, 6h06 à Bukavu où le groupe armé du M23, soutenu par les soldats rwandais, poursuivent leur avancée. Présence dans la capitale provinciale du Sud Kivu, confirmée ce dimanche par un porte-parole de l'armée congolaise à 40 km plus au sud, à la frontière rwandaise entre Bugarama et Kamanyola. Les traversées au poste aux frontières étaient bloquées, la situation sécuritaire confuse, Lucie Mouillot.
À l'ombre de son camion, assis avec d'autres conducteurs, Nicolas Mouhemedi attend depuis deux jours de pouvoir traverser la frontière pour rentrer à Uvira.
Nous sommes coincés, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On est arrivé ici hier, on a attendu seulement des coups de balle. Alors on nous a dit, les policiers, d'évacuer les véhicules qui étaient ici pour aller de l'autre côté.
Au poste frontière, les agents de l'immigration congolaise ont été aperçus pour la dernière fois vendredi. De nombreux tirs étaient entendus jusqu'à Bugarama ces derniers jours, affirment de nombreux habitants, comme Amos Gamidje.
Personne n'a traversé ni ce dimanche, ni samedi. Il y avait des criminels qui voulaient voler et piller. Ils tiraient dans leur pays, mais ici, il n'y avait pas de problème.
Une situation plus apaisée dans la journée de dimanche où les activités ont repris à Bugarama. Son enfant dans les bras, Tarsila Nirachirambere sort de nouveau dans les rues, rassurée par le calme apparent.
Ici à Bugarama, les choses vont mieux aujourd'hui. Mais samedi, nous avions peur. Nous étions enfermés et personne ne bougeait. Certains pensaient à fuir, mais les tirs se sont arrêtés dans l'après-midi et nous avons décidé de rester.
Depuis la rivière de Rusizi, qui sépare le Rwanda et la plaine de Kamanyola en RDC, presque personne n'était visible sur les rives congolaises ce dimanche. De larges déplacements de populations ont été signalés vers le sud, pour beaucoup trouvant refuge au Burundi. Lucie Mouillot, de retour de Bugarama, RFI.
L'Union africaine a demandé un retrait immédiat du M23 sans pour autant explicitement mentionner le Rwanda. Nous ne voulons pas d'une balkanisation de la RDC, a plaidé le commissaire paix et sécurité de l'UA, Bankole Adeyoye, lors de la clôture du sommet des chefs d'État de l'instance hier à Addis Abeba. Au Niger, premier signe de vie d'Alassane Souleymane, haut fonctionnaire enlevé le 11 janvier dernier par le JNIM, organisation terroriste affiliée à Al-Qaïda, enlèvement dans le parc national du W, situé à la frontière avec le Burkina Faso. Une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux, vidéo enregistrée le 12 février dernier. Et puis l'actualité américaine, à présent les États-Unis, marqués par ce terrible drame. La police a annoncé l'inculpation de 5 personnes qui ont torturé pendant des mois, puis tué un homme transgenre, meurtre qui s'est déroulé dans l'État de New York. Correspondance Edouard Maille.
En 20 ans de carrière comme force de l'ordre, c'est un des crimes les plus atroces sur lequel j'ai enquêté, a dit un capitaine de la police lors d'une conférence de presse. La victime a subi, selon les autorités, des actes répétés de violence et de torture pendant deux mois. Sam Norquist, un homme transgenre de 24 ans, originaire du Minnesota, a emménagé dans le nord de l'État de New York en septembre, où il résidait dans un motel. À partir de janvier, sa famille n'a plus de nouvelles et la police lance un avis de recherche le 9 février. Et jeudi dernier, son corps est retrouvé dans un champ. Le lendemain, 5 personnes âgées de 19 à 38 ans sont inculpées pour meurtre, dont au moins une qui résidait dans le même motel. Un crime plus que dépravé, selon le procureur. L'enquête est encore en cours. D'autres personnes pourraient être arrêtées. La police n'a pas précisé comment les accusés ont rencontré la victime, mais n'a pas écarté l'hypothèse d'un crime de haine, c'est-à-dire un crime à cause de la couleur de la peau, de la religion ou le genre auquel s'identifie la victime. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Les violences contre les personnes transgenres qui se multiplient depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, après avoir pris un décret visant à bannir ce qu'il appelle l'idéologie transgenre de l'armée, excluant quelques 15 000 soldats de l'US Army, le milliardaire républicain a également légiféré concernant les athlètes transgenres qu'il veut interdire de participer aux compétitions féminines. On va terminer ce journal à Londres pour les BAFTA, récompense britannique du cinéma, sorte de levée de rideau des Oscars. Les Oscars qui auront lieu dans 15 jours et le film Emilia Pérez du réalisateur français Jacques Audiard était attendu. Finalement, Conclave a été sacré meilleur film et The Brutalist l'a emporté dans les catégories très prisées de meilleur réalisateur et de meilleur acteur. Emilia Pérez qui remporte tout de même deux récompenses, mais le film mexicain a été pénalisé par les propos polémiques de l'actrice principale, Carla Sofia Gascone, correspondance à Londres de Sidonie Gaucher.
And the BAFTA goes to Emilia Pérez.
Emilia Pérez, tournée en espagnol, est repartie avec deux trophées, dont celui du meilleur film en langue non anglaise. Jacques Audiard et Zoé Saldana ont reçu leurs trophées respectifs pour la fresque musicale sur la transition de genre d'un narcotrafiquant. Zoé Saldana, qui incarne l'avocate dans le film, a reçu le BAFTA de la meilleure actrice dans un second rôle avec beaucoup d'émotion.
BAFTA, thank you. This was a creative.
Merci les BAFTA, c'était le défi créatif d'une vie. Comment peut-on aborder un film qui défie autant de catégories? Eh bien, il suffit de suivre Jacques Audiard.
So thank you so very much.
Elle a dédié son prix à son neveu trans, ajoutant qu'elle soutiendrait toujours la communauté LGBTQ. Elle a également salué l'actrice principale, Carla Sofia Gascone, absente de la cérémonie à cause d'anciens tweets racistes et islamophobes qui ont fait exploser la campagne du film. Rendez-vous aux Oscars dans 2 semaines où le film est nommé dans 13 catégories. Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
Allez, on termine sur les terrains de sport et part du football pour commencer. 5 matchs, 5 victoires à l'extérieur ce dimanche. Il faisait bon de voyager lors de la 22e journée de Ligue 1. Carton de Lyon 4 buts à 1 à Montpellier, tandis que Lille l'emporte 2-0 à Rennes dans le choc du soir. Les nordistes sont 5e, tandis que Nice monte sur le podium après son succès 3 buts à 1 sur la pelouse du Havre. Et puis en Italie, choc au sommet entre la Juventus Turin et l'Inter Milan, remporté 1-0 par la vieille dame sur un but de Francesco Cancelsao. Et puis un choc entre équipes malades en Angleterre et Tottenham l'emporte 1-0 sur Manchester United sur un but de Madison. Les Red Devils qui ne font plus peur à personne. Manchester United qui pointe à une très triste 15e place. Et puis enfin, aux États-Unis, en basket cette fois-ci, c'était le All-Star Game à San Francisco. Victoire des OGs, les anciens, portés par Steve Curry, Kevin Durant et James Harden. Victoire 41-25 des OGs sur les Global Stars du français Victor Wembanyama, RFI. Bientôt 5h13, ici à Paris, l'info continue. Et à suivre dans le prochain quart d'heure, le Royaume-Uni qui se met à la reconnaissance faciale, intelligence artificielle controversée, mais qui séduit outre-Manche dans la lutte contre la délinquance. Nous serons à Berlin aussi pour la 75e édition de la Berlinale, parmi les films en compétition, Minimals in Titanic World du jeune réalisateur rwandais Philbert Mbabazi, invité ce matin de notre envoyée spéciale Elisabeth Lequéré. Enfin, nos rendez-vous habituels, le conseil santé de Caroline Paré et le choix musical des programmateurs de RFI. Mais avant tout cela, direction Beyrouth. On vous en parlait dans le journal, Israël qui continue de frapper le Liban et le Hezbollah, qui appelle les nouvelles autorités libanaises à faire respecter l'accord de cessez-le-feu qui prévoit un retrait des troupes israéliennes du territoire libanais demain mardi 18 février. Une date déjà repoussée à la demande d'Israël et qui était initialement prévue le 27 janvier dernier. Le conflit au Liban entre septembre et novembre qui a fait plus de 4000 morts dans le pays. Beyrouth, où l'on retrouve notre correspondant Paul Ralifé. Paul, où en est-on sur le terrain à la veille de l'expiration de ce délai de retrait accordé à Israël?
La situation est confuse et incertaine. L'armée israélienne ne s'est pas encore totalement retirée du sud du Liban. Elle reste présente dans plusieurs localités, notamment dans les secteurs central et oriental de la frontière. Cette présence empêche le déploiement de l'armée libanaise jusqu'à la ligne bleue tracée en l'an 2000 après la fin de l'occupation du Sud qui avait duré 22 ans. L'armée libanaise essaye de son côté de remplir la mission qui lui est impartie. Elle a démantelé des dizaines d'infrastructures militaires du Hezbollah au sud du fleuve Litani. Elle a pris possession d'autres sites comme des bases et des tunnels souterrains et saisi d'importantes quantités d'armes et de munitions. Le retard dans l'application de toutes les clauses de l'accord de cessez-le-feu est indiscutable et il est peu probable qu'il puisse être rattrapé dans les quelques petites heures qui nous séparent de l'expiration du délai.
Et Paul, l'armée israélienne a poursuivi ses activités, ses opérations ces derniers jours. et les habitants notamment du sud Liban ne sont toujours pas revenus chez eux.
Effectivement, l'aviation israélienne a mené dimanche en soirée une série de raids dans la plaine orientale de la Beka, non loin de la frontière avec la Syrie. Ces frappes sont intervenues moins de 24 heures après une attaque au drone qui a fait samedi 2 morts et plusieurs blessés dans le sud du Liban. Toujours dans le sud, l'armée israélienne a ouvert le feu dimanche sur des habitants qui tentaient de rentrer dans la localité frontalière de Houla, dans le secteur oriental. Une femme a été tuée, plusieurs personnes blessées et 2 secouristes capturés par les soldats israéliens. Dans le même temps, les troupes israéliennes ont procédé à des opérations de dynamitage d'infrastructures militaires du Hezbollah et de maisons. Des sources libanaises estiment à 1 000 000 le nombre de maisons détruites ou incendiées par les Israéliens depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
Et Paul, face à ce retard, avec toutes ces tensions, à quel scénario faut-il maintenant s'attendre ?
Les Israéliens vont probablement maintenir 5 positions à l'intérieur du territoire libanais sur des collines stratégiques qui vont de la Méditerranée jusqu'au contrefort du Golan syrien occupé. Les États-Unis, qui dirigent le comité de surveillance du cessez-le-feu, ne semblent pas s'opposer au plan israélien. Ce scénario est porteur de perspectives inquiétantes, surtout que le secrétaire général de Hezbollah, Naïm Assem, a déclaré dimanche soir qu'Israël doit se retirer complètement du territoire libanais et qu'il n'y a aucune excuse qui pourrait lui permettre de rester. Le chef de Hezbollah a ajouté que l'État libanais ne doit pas accepter que l'armée israélienne reste, que ce soit en 5 points stratégiques ou ailleurs.
Et merci Paul Ralifé, correspondant de RFI à Beyrouth. Paul, on vous retrouve tout à l'heure avec Nemo en Peace. Rendez-vous à 7h20, temps universel, 8h20, heure de Paris. Et nous voilà au Royaume-Uni, où la reconnaissance faciale séduit de plus en plus, une technologie interdite en Europe si elle est utilisée en direct. Mais pas de ce côté-ci de la Manche. Cette intelligence artificielle est bien utile aux autorités britanniques pour lutter contre la délinquance. Mais un épais flou juridique persiste et plusieurs ONG s'inquiètent de la constitution de bases de données de potentiels suspects sans aucune validation préalable des autorités publiques. Illustration à Londres et à Weymouth, ville balnéaire du sud de l'Angleterre, avec notre correspondante Marie Billon.
So this female enters the alcohol aisle.
Dave est assis dans l'arrière-boutique de son magasin d'alimentation générale près de la gare de Weymouth. Il regarde l'enregistrement, qui date du mois de décembre, d'une femme en train de prendre des bouteilles d'alcool pour les mettre dans les poches de sa parka. Un superviseur l'a vue et est allé lui demander des comptes. C'est justement pour éviter ce genre de choses que Dave a installé FaceWatch, un logiciel de reconnaissance faciale, en juin 2023.
Avant FaceWatch, nous avions des vols 2-3 fois par jour, parfois plus. Il s'agissait souvent des mêmes personnes. Maintenant, nous en sommes à 2 ou 3 vols par semaine. Nous recevons des alertes de FaceWatch. Lorsque des voleurs qu'on a déjà repérés essaient encore d'entrer dans notre magasin, ils sont refoulés à la porte. Donc très souvent, cela évite qu'il y ait vol. Voici donc la caméra de surveillance avec FaceWatch. Elle prend un cliché et le compare avec une base de données. Si la personne correspond à la base de données, nous sommes alertés dans les 6 secondes qui suivent le passage de la porte.
Mais d'autres commerçants des alentours qui utilisent le même logiciel, FaceWatch, remplissent aussi leur propre base de données. Chris Jones est le chef exécutif de l'ONG pour les libertés publiques Statewatch. Du haut de la terrasse de son immeuble d'entreprise, Chris Jones surplombe Fleet Street, l'une des rues principales de la cité de Londres, le quartier financier. Il sait que les caméras sont partout, dans les rues, dans les commerces. Ce qui l'inquiète surtout, c'est le manque de régulation. Il pense au système de partage des informations qu'utilisent par exemple Dave à Weymouth et les commerçants des alentours. Qui sont-ils pour punir une personne sans qu'elle ait été jugée et déclarée coupable ?
C'est très dangereux pour une société de voir les moyens de sécurité privée se multiplier à ce point, car il est censé y avoir un seul ensemble de lois pour tous, appliquées de manière égale par le système de justice pénale. Donc on s'éloigne de plus en plus de l'idéal d'une société fondée sur l'état de droit.
Normalement, les commerces doivent préciser s'ils utilisent des caméras de surveillance et si la reconnaissance faciale est utilisée. Mais selon les ONG comme Statewatch, tous ne jouent pas le jeu et ne préviennent pas les clients qui ne peuvent alors pas donner leur consentement. Consentement qui se fait de facto, simplement en entrant dans le magasin. Marie Billon, Londres, RFI.
Londres, il est 4h19, comme en temps universel. Reportage à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr, onglet reportage international. Et direction Berlin, à présent, pour la 75e édition de la Berlinale dans la capitale allemande. Premier grand rendez-vous de la saison en cinéma et en course pour l'Ours d'Or. Un tout jeune réalisateur rwandais, Philbert Mbabazi, tout juste 35 ans, lui qui a commencé à faire des films à l'âge de 22 ans. Le natif de Kigali, qui sort son tout premier long métrage, Minimals in Titanic World. On y suit les aventures d'Anita dans la nuit rwandaise. Philbert Mbabazi a rencontré à Berlin Elisabeth Le Quéré. Il est ce matin notre invité.
Philbert Mbabazi, bonjour.
Bonjour.
Votre premier long métrage trace le portrait d'Anita, une danseuse qui se produit dans un club à Kigali. On la découvre à un tournant de sa vie. Elle veut devenir chanteuse, elle compose ses propres chansons et dans le même temps, on apprend que son compagnon vient de mourir dans des circonstances un peu mystérieuses.
Oui, c'est ça. Le film donc parle de ça et il y a un thème qui est le deuil parce que Anita et les amis du défunt se rencontrent pour faire le deuil.
Anita, elle a du mal à trouver sa place dans le groupe.
Oui, voilà, tout le film est autour de cette sorte de nouvelle famille qui se crée, mais surtout le personnage d'Anita qui s'est de suivre son chemin, son ambition de chanteuse et qui crée et qui essaie de trouver aussi une sorte de solace dans la création.
Une sorte d'épanouissement. Justement, on a l'impression que ce film, c'est le portrait d'une génération qui se cherche dans un monde où il y a très peu d'adultes et où les adultes finalement n'aident pas beaucoup et sont plutôt des prédateurs.
Pour moi, l'idée, c'était un peu de détourner la situation parce que le deuil, c'est pour la famille. Et moi, j'essaie de retourner la situation. Donc, le deuil, c'est pour les amis aussi. Et voilà, le Rwanda, c'est un pays où 60% des gens sont à moins de 30 ans. Donc, ils sont nés après 94. Et je cherche à faire un film qui leur donne place, où ils sont au centre de tout. Voilà.
Le titre de votre film, Philbert Mbabazi, c'est Minimals in the Titanic World. Comment pourrait-on le traduire en français?
C'est des êtres minimes dans un monde immense. C'est pas un voyage épique qu'on va faire avec ces personnages. Pour moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est des personnages qui peuvent paraître simples, mais qu'on va suivre et qu'on va voir au-delà du contexte sociopolitique.
C'est un voyage émotionnel que vous proposez aussi avec tous les moyens du cinéma, de la musique et surtout de la danse.
Oui, Anita aussi, en traversant tout cela, est inspirée et commence à écrire des chansons un peu inspirées par la perte qui est négative d'une façon, mais où elle va trouver quelque chose à partager avec les gens.
Philbert Mbabazi, à quoi ressemble aujourd'hui le paysage du cinéma à Kigali?
Le paysage du cinéma à Kigali est très inspirant. Il y a un bon nombre de jeunes cinéastes. C'est des gens qui travaillent beaucoup dans la solidarité et qui partagent la passion parce que chez nous, il n'y a pas d'école de cinéma, il n'y a pas de... Il y a un fonds qui commence à se mettre en place, qui prend encore sa vitesse petit à petit. Mais donc, malgré tout, c'est vraiment autour de cette communauté-là des cinéastes et la passion et l'ambition qui les traverse, qui est aussi un peu contagieux envers tout le monde, qui nous fait continuer à faire des films. Et donc, ça donne beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup d'inspiration. Et c'est très, très prometteur.
Philbert Mbabazi, merci beaucoup.
Merci à vous.
Philbert Mbabazi, au micro d'Elisabeth Le Quéré, la Berlinale, à suivre dans la capitale allemande jusqu'au 23 février prochain.
Le Conseil Santé avec Sunwa Assurance.
Et Caroline Paré qui reçoit ce matin le docteur Abdoulaye Diop pour parler hygiène intime.
Docteur Abdoulaye Diop, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes gynécologue obstétricien à la clinique Bellevue à Dakar au Sénégal. Quand on parle d'hygiène intime au féminin, est-ce qu'il y a des mises en garde particulières, des gestes à éviter absolument?
Oui, il y a beaucoup de mises en garde à faire parce qu'on remarque qu'il y a souvent un excès dans l'hygiène intime chez les femmes. Et la mise en garde, c'est d'en faire le minimum possible. Donc l'hygiène intime parfaite, c'est de l'eau, utiliser de l'eau et utiliser le moins possible les savons et autres antiseptiques.
Ça veut dire que la plupart des femmes qui consultent, qui viennent vous voir, en général, c'est davantage pour des excès d'hygiène intime que pour pas assez d'hygiène intime?
Exactement. La plupart des manifestations que ces femmes remontent, telles que les démangeaisons ou certaines pertes, ne sont dues qu'aux excès. L'excès d'utilisation de savon va perturber et détruire la flore vaginale protectrice et c'est ce qui a l'origine de cette apparition de plein de démangeaisons ou plein de pertes. Donc ce sont les excès qui posent plus problème que le défaut d'hygiène.
Et comment faire la part des choses face à la multiplication des recettes ou conseils sur Internet?
C'est dommage, il y a une floraison justement de ces recettes de grand-mère sur Internet et la meilleure chose à faire c'est d'en faire le minimum, de laver les parties intimes avec de l'eau, du savon ou avec n'importe quel gel intime à condition de diluer ce gel, de privilégier le savon de Marseille et surtout de le faire le moins possible, en moyenne une fois par semaine maximum.
Merci docteur Abdoulaye Diop. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on va parler de l'importance de l'activité physique, de la lutte contre la sédentarité pour rester en forme, avec le médecin du sport, le docteur Jean-Marc Sen, qui va répondre à vos questions. Motivation, sport, maladie chronique, prévention, hydratation. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et voilà qui est bien noté. Merci Caroline Paré. Et à tout à l'heure, nous on va se quitter en musique avec le Congolais Yalevis qui nous chante ce matin Commandante, extrait de son 4e album Love Machine.
Demande-le-moi, tu sais ce que t'attends de moi dans l'intimité. T'es jamais la même dans le noir de nous deux, ça reste toi la plus sombre. Mais kokangama, mono kwe kozanga maloba, bongisa to sangana, toko zangana yo maloba. Tana comme un homme, comme un homme, comme un animal sale, sale, dur à dompter. Comme un général, katina et nazo kambanga, commandante. Commandant, fais-moi juste un signe, dis-moi, dis-moi quand. Je t'ai entre mes mains, tu me vas comme un gant. Je vais te faire ça comme personne avant, comme personne avant. Oh. Tikana kumbela, pembeni fanana kumbela, zalato kumbela, kosonga na simana koza na teme kokangama, mono kwe kozanga maloba, bongisa to sangana, toko zangana yo maloba. Comme un homme, comme un homme, comme un animal sale, sale, dur à dompter. Comme un général, katina et nazo kambanga. Commandante, commandante, commandante. Comme un homme, comme un homme, comme un animal sale, sale, dur à dompter. Comme un général, katina et nazo kambanga. Commandante.
Yalevis, titre issu de la playlist des programmateurs de RFI ce mois-ci. Commandant Gavalière était à la barre à la réalisation ce matin. Général Grégory Lesca à la rédaction en chef. Dans un instant, le retour de l'info africaine sur RFI.
De voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Aujourd'hui,
ils et elles sont originaires du Sénégal, du Mali, d'Afghanistan ou d'Albanie. Chaque mois, ils envoient de l'argent à leur famille restée au pays. Quelle dette symbolique lie ces immigrés à leurs parents, leurs frères et sœurs, mais aussi au pays qu'ils ont quitté.
8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Ce lundi, sur RFI.
Pourquoi tout migre ?
Autour de la question, avec Caroline Lachowski.
Arrêt sur l'image de nos migrations.
humaine, mais aussi animale et végétale, dans deux expositions conjointes, au Musée de l'Homme à Paris et au Muséum de Bordeaux. Pourquoi et comment tous les êtres vivants sur Terre sont des migrants ?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI et en podcast sur RFI.fr.